c'est génétique et qu'il y a des déclencheurs, c'est vraiment une maladie presque classique, comme un cancer ou beaucoup d'autres.
Alors,
sauf
moi,
que ce n'est pas les mêmes déclencheurs.
Oui, je me souviens très bien quand j'étais enfant qu'on ne parlait pas du cancer. Hein, c'était une maladie honteuse à l'époque. Mm-hmm. Hein, et puis ça pouvait être contagieux en plus. Et alors, pareil, progressivement, on ne parlait pas du sida. Hein, c'est, bon, et je crois que bon, le jour où ça commence, hein, où c'est les personnes elles-mêmes qui souffrent de troubles bipolaires, de schizophrénie, qui prennent la parole, qu'on sortira de la stigmatisation dans laquelle on est enfermé. Alors déjà que les familles parlent, là j'évoquais tout à l'heure avec quelqu'un, il y a 20 ans, à l'UNAFAM, les familles, elles se retrouvaient, mais entre elles. Hein. Nous, on nous a dit, bon, faut surtout pas en parler aux voisins, etc. Alors que quand vous avez quelqu'un là qui, ça se voit bien, hein, quelqu'un qui est malade et qui se disjoncte complètement, si on n'explique pas ce qui se passe, ça crée de la peur, de l'angoisse chez tous les gens qui côtoient la personne. Alors que si on explique, d'une part, la personne, elle va être moins stigmatisée, et d'autre part, les personnes auront moins peur aussi.
Je trouve que le problème avec ce genre de maladie, c'est que quand c'est les personnes atteintes ou les proches qui témoignent, le fait que ce soit une maladie mentale, ça influe sur, parfois sur la perception des choses, et pour l'opinion publique, ça peut leur faire perdre de la crédibilité, du coup. Et vu que les familles sont atteintes directement, enfin, sont sujettes à... sont tout le temps avec la victime, elles sont aussi atteintes psychologiquement, donc plus éprouvées. Et pareil pour l'opinion publique, ça fait baisser la crédibilité et ça rend encore plus difficile les débats. Donc je ne trouve pas qu'on puisse considérer ça comme une maladie comme les autres à ce niveau-là. Après, le mot du reste.
Par rapport à ça, moi j'ai envie de dire, écoutez, bon, quand j'en parle, il y a des gens, ah ben oui, mais finalement, on me dit que... j'ai une cousine, finalement, qu'elle est un peu dépressive, bon. Et quand c'est récurrent et puis que la personne ne travaille pas, etc., je dis finalement, mais vous vivez de toute façon dans un monde où autour de vous, vous avez des malades psychiques, c'est sûr. Mais on ne les voit pas. Moi-même, tant que je ne savais pas exactement, je ne percevais pas. Alors, mais à partir du moment où les gens vont être plus attentifs et ils vont avoir un autre regard aussi. Mais l'important, c'est effectivement, au départ, c'est que les familles rencontrent d'autres familles concernées. Et si ça marchait bien, on serait un grand nombre à se retrouver.
Oui, c'est pas plus tard que ce matin, dans le journal, je lisais un petit article... où c'est une femme avéronaise qui a été touchée de 3 coups de couteau par quelqu'un justement qui est malade psychique à mon moment. Qui avec sa voiture, il faisait n'importe quoi. Il a été pris en chasse par les forces de police locales et il est sorti de la voiture à ce moment-là. Il a essayé de poignarder cette femme. Voilà. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, je l'irai devant la justice. La question est de savoir, et c'est une bataille d'experts après, est-ce que cet acte est commis dans un état de démence ou est-ce que cet acte est commis en toute connaissance de cause? Voilà, c'est tout. Pareil pour la malheureuse personne de la chambre d'agriculture là, qui a été malheureusement victime de ça. Quand on lit le journal, c'est vrai que la personne a été prise à un moment donné des hallucinations. Elle a entendu des voix qui lui disaient deux. Voilà. La justice vient de se prononcer.
Des voix qui lui disaient de passer à l'acte.
De passer à l'acte, oui. Tout à fait. Oui, oui, c'est des voix qui. Alors, qui ne vous dit pas de passer à l'acte, les voix disent, en principe, tu dois aller tuer quelqu'un ou pas. Voilà. C'est des passages à l'acte, tout à fait. Des voix qui leur disent d'aller faire ça. Et donc. La justice, les experts ont constaté qu'effectivement, c'était dans un état de démence. Donc, elle n'aura pas la sanction telle que pourrait être faite. Voilà. Mais ceci étant, la personne n'est pas pour autant remise en liberté parce qu'elle va sûrement être remise dans une unité pour malades difficiles, dans les UND. Et donc, elle va rester quand même jurer toute sa vie en situation d'enfermement, sauf qu'elle ne sera pas en prison. Voilà. Donc c'est-à-dire que la problématique, comme à Millau, hein, Millau, il y a quelques années, la jeune fille qui a été tuée, c'est son voisin qui est venu, hein, voilà, qui a sonné. Voilà, on ouvre le pipon. Parce qu'il a pareil, il a eu des hallucinations qui lui disaient, bon, voilà. Voilà, donc ce qui veut dire, alors toutes les hallucinations que les malades peuvent avoir ne sont pas de cet ordre-là, hein, ils ne disent pas toutes les hallucinations. Dire, voilà. Un autre cas, à un moment donné, on a par exemple un matin le proche qui se lève et qui dit je vais partir. Pourquoi ? Pour aller où ? Il ne sait pas, mais des voix lui disent mais tu dois partir. Voilà, et il part. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que quelqu'un qui atteint un cancer et qui va commettre un crime, ça ne va pas avoir la même résonance que quelqu'un qui a une maladie psychique et qui va commettre le même crime. Parce que là, on va dire, mais qu'a fait la société, qu'a fait les milieux médicaux pour empêcher que cela ne puisse se produire. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une amplification, mais c'est vrai que le trouble psychique, là, est à l'origine de ce qui se produit. Mais ceci étant, on ne peut pas enfermer en hôpital tous ceux qui sont dans cette situation et qu'on peut dire, un jour, peut-être, ils vont... Voilà. Parce qu'en pourcentage, c'est très faible. Hein. C'est très, très, très faible. D'un autre côté, dans la région de Grenoble, je crois, il y a un psychiatre qui a été condamné par la justice pour justement avoir autorisé un malade à sortir et qui a commis ça. Et c'est le psychiatre qui a été condamné. Voilà. Parce que... Mais le psychiatre, au moment où il a fait, le diagnostic, il a pensé en son âme et conscience que cette personne pouvait... retourner vivre.
Alors, sauf fait grave, tu l'as souligné, il n'y a pas d'obligation de soins pour les majeurs. Mmh. Est-ce que, malgré tout, vous souhaitez une évolution de la loi à ce niveau ? Si les faits sont... les symptômes sont vraiment patents, les signes...
Alors,
l'obligation de soins commence toujours par une hospitalisation. Et donc une hospitalisation, alors les familles, la loi a changé un peu dans la mesure où on demande des soins. Et la décision d'hospitalisation est prise par des soignants et le directeur de l'hôpital. Alors qu'avant c'était les familles qui signaient une demande d'hospitalisation. Et l'hospitalisation peut être faite aussi à la demande du préfet, enfin ou de son remplaçant, pour péril imminent. Alors, le gros problème... c'est que on peut pendant des mois, voire des années, voir son proche, mais vraiment se décomposer, hein, et complètement. Mais tant qu'il n'y a pas, péril imminent, il n'y a pas d'hospitalisation possible. Et comme il manque un peu de place, ben, quelquefois ils sont hospitalisés, ils ressortent deux jours après. Alors ceux qui sont hospitalisés sans consentement. Il y a une juridiction, enfin depuis, sur demande de l'UNAFAM, la loi de 2011 propose que, enfin demande à ce qu'il y ait un juge de privation des libertés qui intervienne, mais qui intervienne surtout un petit peu d'un point de vue administratif. Donc 15 jours après l'hospitalisation, et si elle dure longtemps, tous les 6 mois, il y a intervention du juge. Alors c'est une forme de protection, puisqu'il y a un juge qui intervient, un juge de privation de liberté, puisque c'est ça. Malheureusement, la plupart du temps, les hospitalisations sont trop courtes parce qu'on considère que pour voir l'effet d'un traitement, pratiquement d'un psychotrope, il faut 7 à 8 semaines. Et les hospitalisations sont très courtes, donc on laisse sortir. Alors, ceux qui sont sans consentement, on peut les laisser sortir avec une obligation de soins. Sauf que lorsqu'ils sortent et puis qu'ils arrêtent le traitement et puis qu'ils vont plus bien, il n'y a plus personne pour aller les chercher. Donc il faut faire réintervenir, c'est l'hôpital qui doit faire réintervenir la gendarmerie, etc. Et l'obligation de soins peut être effectivement une nécessité, c'est sûr, une nécessité dans certains cas. Alors, dans les personnes, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes, donc d'avoir beaucoup de témoignages au niveau national. Je connais deux personnes qui arrivent à vivre en milieu ordinaire, c'est deux femmes, une sans traitement, mais qui me dit, je fais une heure de relaxation par jour, moyennant quoi l'institutrice. Mais elle fait, donc c'est quelqu'un qui a déjà un certain niveau, hein, mais pour vraiment, pour assumer sa vie, elle est obligée de faire une heure de relaxation par jour, et elle voit une psychologue dès qu'il y a un changement, le moindre changement dans sa vie, pour arriver à assumer. L'autre est en milieu ordinaire aussi, et la dernière fois que j'ai rencontré, bon, vous allez voir un peu leur fragilité. Elle me dit, je suis un peu agitée, un peu angoissée, parce que mes parents veulent que je m'achète un appartement, et on a rendez-vous chez le notaire. Et ça pouvait être un facteur de décompensation. Bon. Un autre exemple d'une personne qui avait été hospitalisée pendant très 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 longtemps, puis qui avait trouvé un équilibre en entrant dans une communauté religieuse. Et au bout de quelques années, il a décidé de faire ses vœux. Et peu de temps avant, ben, il a craqué et il s'est retrouvé à l'hôpital. Parce que le stress provoqué par une décision, voilà, était insoutenable, quoi. Vous voyez un peu tous les cas de figure. Donc il y a une fragilité. Nous, dans ce qu'on perçoit, c'est effectivement, ils ont comme s'il y avait ils n'avaient pas ce qu'il faut pour réguler le stress. Le stress chez une personne normale, enfin, dans le cas de stress, on va mettre une heure, on va mettre deux jours, trois jours, on va faire un deuil un certain temps. Et eux, enfin, chez certaines personnes, on a l'impression qu'ils n'ont pas les régulateurs du stress. Et un autre constat aussi, c'est entre leurs émotions. Ils ont des émotions. À certains moments, on a l'impression qu'ils n'ont plus d'émotions. Alors qu'ils ont des émotions très très fortes, mais qu'ils ne sont pas capables d'analyser. Ils ne vont pas pouvoir vous dire qu'ils sont tristes, ou qu'ils sont en colère, ou qu'ils sont... angoissés, ils peuvent pas le dire, comme si ils encodaient pas leurs émotions sous forme de sentiments, et qui permet aussi l'élaboration d'une pensée. Hein, c'est-à-dire que c'est parce que on a vécu tel ou tel événement qui nous a traumatisé. Enfin, mais on va y réfléchir et on va analyser la situation et on va peut-être pas recommencer. Hein. Or, combien de fois on s'est posé la question, les parents se posent la question, mais combien d'hospitalisations faudra-t-il pour qu'ils comprennent qu'il doit prendre un traitement ? Alors que quelqu'un qui raisonne, il va se dire, bon, j'ai tenté une première fois, j'ai arrêté mon traitement, pof, je suis retombée, je me suis retrouvée à l'hôpital. Donc, c'est des questionnements.
La difficulté aussi, c'est que lorsqu'ils prennent leur traitement, donc il y a forcément un mieux qui se produit, ils raisonnent comme nous, je vais mieux, j'arrête. Nous, quand on est enrhumé, on va prendre pendant trois jours, le rhume est passé, c'est vrai, à juste titre, j'ai plus lieu de prendre mon médicament. Eux, ils font, par contre, cette fois-ci, ils font une erreur de jugement, en ce sens, c'est pas parce qu'ils vont mieux qu'il faut qu'ils arrêtent, quoi. Je veux dire, celui qui, par exemple, a un problème d'hypertension, il sait que tous les matins, il faut qu'il prenne son cachet, mais il va le prendre, même si ça va bien. Voilà. Tandis que le fait qu'ils vont mieux, bah, ils disent, ben voilà, j'arrête. Voilà.
Alors, oui, il y a aussi, faut pas sous-estimer les effets secondaires des traitements, qui sont lourds, hein, qui sont très lourds. Bon, beaucoup prennent énormément de poids, d'autres, au niveau de la sexualité, il n'y a plus de libido, d'autres qui vont avoir... Bon, les traitements sont tels qu'il faut d'autres traitements pour contrer les effets. Hein, donc on va prendre des antiparkinsoniens face à certains, et oui. Et donc certains se retrouvent avec des traitements invalidants. Donc,
puis ils ne peuvent pas trop vivre comme tout le monde, parce qu'avec des psychotropes, on peut en prendre...
Alors, je voudrais pas que vous reteniez que les cas les plus lourds, hein, qu'on a un peu à connaître à une femme, hein, parce que les familles n'en peuvent plus. Mais n'oubliez pas, il y a toutes les situations de gens qui sont en situation de travail, en milieu ordinaire, hein, et que vous côtoyez, mais que vous ne savez pas. Attention, j'insiste bien là-dessus. Quand on parlait des troubles bipolaires qui peuvent être très très graves, d'autres ont été diagnostiqués bipolaires, ils étaient déjà à la retraite, ils avaient travaillé toute leur vie. Hein. Les troubles bipolaires, vous avez un certain nombre de personnes qui vont, des femmes par exemple, qui vont effectivement décompenser après un accouchement, premier ou deuxième accouchement, ou à la ménopause, ou il y a les phénomènes hormonaux qui vont effectivement jouer à ce moment-là.
Et les espoirs de guérison dans les situations.
Il y a un monsieur qui a demandé là, puis je réponds après.
Oui, on parle de médicaments là. En matière d'antidépresseurs, on nous abreuve sans arrêt à nous dire qu'en France, on est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Est-ce que c'est exact ?
Oui, je crois qu'effectivement, c'est on vrai. Est. Oui,
comment vous l'expliquez ?
Alors, il y a beaucoup de gens qui prennent des antidépresseurs qui ne sont pas malades, des maladies dont on parle là. Hein. Il y a beaucoup de gens. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la dépression aussi, mais qui sont. Les médecins ne sont. Quelque part, manquent de formation à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire que les antidépresseurs, théoriquement, on ne doit pas pouvoir en prendre pendant. Hein, et c'est donné un peu facilement, je crois.
Alors, quand ça manque d'accompagnement dans la problématique.
Alors, on a découvert. C'est quand même assez récent, ça fait quoi, 10 ans maximum, ça, qu'effectivement, il y avait des personnes qui relevaient des troubles de l'humeur, mais qui n'avaient que la phase dépressive. Donc les personnes qui avaient des dépressions récurrentes, hein, c'est-à-dire que bon, une personne qui a une dépression suite à un deuil important, voire une maladie, peu importe, hein, normalement ça se guérit. Alors que les dépressifs récurrents, il y a quand même des traitements spécifiques. Mais des traitements spécifiques qui sont relativement lourds, qui marchent bien, mais qui ne vont pas forcément marcher pendant des années et des années. Parce que les effets secondaires font qu'effectivement, ils peuvent détruire les reins, ou ils peuvent détruire les défenses immunitaires, ils peuvent détruire. Et donc, à ce moment-là, je connais une personne, il a fallu une année pour retrouver un traitement qu'il équilibrait à peu près. Parce que le traitement précédent n'allait plus du tout. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Si,
hein.
Si,
alors, est-ce qu'on peut en guérir ?
Vous parliez de quelques personnes qui, au moment de l'accouchement ou je ne sais pas quoi, avaient c'était découvert des troubles
bipolaires.
Mais la question, c'est pour le reste de la vie ou ça peut, on peut guérir d'affaires comme
alors,
ça ?
La vulnérabilité, elle reste. On parle de maladie chronique. Hein. Et après, bon, il y a des degrés plus ou moins importants. Tout le monde n'a pas les mêmes degrés, hein. C'est sûr. Puis tout dépend du contexte dans lequel la personne évolue. Le contexte, alors je dirais, là, au point de vue du milieu de travail, milieu familial, etc. Bon, tout traumatisme va être complètement déséquilibrant. Et puis avec l'effet que d'évoquer, là, c'est l'envie d'arrêter le traitement. Hein. On va bien, donc on arrête le traitement. Donc on rechute.
C'est-à-dire, dans tout ce qui est maladie psychique, en fait, le mot guérison n'est jamais employé. On parle surtout de stabilisation. Voilà. On n'emploie jamais le mot guérison. Mais on dit que quand la situation est stabilisée, on considère par défaut que c'est déjà une guérison.
Voilà. On pourrait peut-être partir de la définition de ce qui serait la santé mentale par l'intégration de différentes composantes de pathologies. Je veux dire par là qu'on est quelqu'un qui est en équilibre, serait un peu schizophrène, un peu paranoïaque, un peu dépressif, un peu, et que la maladie mentale viendrait au moment où il y a un déséquilibre de ces potentiels-là et où on est dans l'exagération d'un de ces traits de personnalité. On pourrait dire les choses comme ça. Ce qui veut dire que le terme de guérison, là, il est questionné aussi, puisque il s'agit de réintroduire un certain équilibre qui est de l'ordre de la stabilisation.
Voilà. C'est un peu comme pour le cancer. Nous sommes tous porteurs du cancer. Hein. Et par exemple, personne qui stresse énormément a plus de chances de générer un cancer que celui qui a une philosophie de vie qui qui est plus... voilà. Voilà. Et pour la maladie psychique, c'est pareil. Il peut avoir... on est tous porteurs d'une maladie psychique parce que tous, par exemple, la dépression, tous, on peut faire, peut-être même que tous, on a fait un petit moment qu'on n'a pas appelé dépression, mais qui était dépressif.
À l'occasion d'un deuil,
hein, l'occasion d'un deuil. La période hivernale, par exemple. Affectif. Vous prenez les fêtes de Noël et tout ça, c'est incroyable, comme la morosité, parce qu'il y a un décalage entre le temps festif qui est annoncé par l'extérieur et les personnes qui elles-mêmes vivent une vie difficile. Alors du coup, il y a une incompréhension, on va dire comment ça se fait, il y a un temps de fête et tout, alors que moi, je suis dans la panade. Voilà. Et donc, et puis en plus, l'histoire des jours plus courts, l'obscurité plus longue, tout ça, c'est une période favorable, je dirais, à des déclenchements de dépression, des choses comme ça, quoi, je veux dire. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui prend des antidépresseurs, s'il va voir son médecin au mois de décembre, le médecin va lui dire, mais c'est pas au mois de décembre que je vais arrêter vos antidépresseurs. On va attendre le printemps. Parce que, il y a un cycle de vie qui... Tout ça influe quand même. Tout ça influe. Voilà. Et c'est vrai que, oui, on pourrait dire qu'on a tous porteurs d'une maladie potentielle, mais, et qu'il y a des faits qui déclenchent et d'autres qui passent en travers, quoi. Je veux dire,
Par rapport à la guérison, c'est pour, par rapport à ce qui vient d'être dit, j'avais lu un article dans la revue Esprit qui était intéressant, c'était que les médecins aujourd'hui ne visent pas forcément la guérison médicale. C'est-à-dire que c'est une maladie chronique, il faut apprendre à vivre avec, comme le diabète ou des choses comme ça. Mais ce qu'ils visent, c'est la guérison personnelle, c'est-à-dire que la personne... Elle sait qu'elle est malade à un moment donné, parce que c'est ça la grande difficulté qu'on a, c'est qu'ils sont dans le déni. Mais quand ils acceptent de reconnaître qu'ils sont malades, qu'ils se soignent, après les degrés de soins, ben, ils sont variables. Hein. Il y a des moments où il faut des doses importantes, et puis progressivement c'est beaucoup moins. Mais que ces personnes, ça n'empêche pas que ces personnes, une fois qu'elles acceptent leur maladie, qu'elles puissent trouver les moyens de vivre apaisé dans la société. Et ça, c'est la guérison personnelle. Voilà. Et moi, je trouve que, en tant que parent, proche, avec un proche comme ça, de le voir évoluer vers cette situation de guérison personnelle tout en ayant encore des soins, ben, je trouve que c'est déjà vraiment bien et rassurant. Ça, je peux vous le dire. Et quand on travaille avec des parents qui rentrent dans la dont les proches rentrent dans la maladie, déjà, leur faire viser cet espoir-là, c'est important. Voilà.
Ce qui me semble, c'est que avant qu'on ne pose le diagnostic, il y a un déni. Un déni de la personne, pour la personne, mais un déni pour son environnement complet. C'est-à-dire qu'on va dire de lui, il a sale caractère, il est imbuvable, on s'aperçoit qu'il change de métier, il fait 5 ou 6 CDI et il démissionne. Mais tout ça parce qu'il a des arguments pour expliquer que c'est normal qu'il ait démissionné, parce qu'effectivement son patron n'est pas compréhensif d'un certain nombre de choses. Et il y a des dégâts au niveau familial, dans le sens que quand on a considéré que son frère ou sa sœur a mauvais caractère, on s'éloigne de lui. Et ce n'est pas parce que le diagnostic est posé après qu'il y a un rapprochement. C'est-à-dire que il y a un effet, c'est pas de la solitude, mais c'est d'isolement. Un effet d'isolement que tous les membres de la famille se trouvent à vivre. Et ça rajoute une couche à la souffrance des proches du malade. Voilà. Et c'est presque dommage d'attendre qu'il y ait un clash grave pour faire intervenir la police, les pompiers et tout ce qu'on veut, pour qu'il y ait hospitalisation et pour qu'enfin on ouvre les yeux en sachant pertinemment que des frères et des sœurs n'ouvriront pas les yeux. Et on peut constater que la famille devient éclatée, c'est-à-dire que les repas de famille sont impossibles. Voilà. Alors c'est un exemple, les repas de famille. Mais je crois que le déni fait que lorsque on ouvre les yeux, la chute est assez grande, pour ne pas dire qu'une fois très grande.
Alors on va peut-être répondre, mais je reviendrai sur l'histoire des repas de famille à travers les échos qu'on entend.
Oui, alors après, je vais dire la guérison parce que c'est plus simple. Comment expliquez-vous qu'il soit aussi difficile pour un ancien malade de reprendre sa place dans la société et dans sa famille, de ne plus être considéré comme il était considéré avant, au même titre d'ailleurs que les drogués ou les alcooliques, hein, quand ils ont l'affaire, quand ils reviennent dans le...
Alors, il y a plusieurs... Dans les personnes qui ont été, bon, je dirais, isolées de fait, hein, parce que ils ont été hospitalisés, ou ils n'ont plus de travail, ils ont... Bon. En fait, c'est des personnes qui n'ont plus de signe de reconnaissance. C'est difficile, hein. De quoi je vais parler si on me demande qu'est-ce que je fais dans une réunion de famille, hein, personne malade. Ah oui, on va me demander qu'est-ce que...
Où je travaille,
qu'est-ce que je fais, mais j'ai rien à dire. Donc, à la fois, si vous voulez, ils s'excluent eux-mêmes et on les exclut. Après, alors, revenir dans nos sociétés, si on n'a pas l'âge de la retraite, retrouver un travail dans une société où il y a plein de difficultés, où il y a plein de chômeurs, ces personnes-là vont encore avoir beaucoup plus de difficultés parce qu'elles vont avoir un CV avec plein de trous. Hein. Donc, quand on a un CV avec plein de trous pour retrouver du travail, c'est pas évident.
Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'on dirait que ces gens-là semblent, peut-être pas dans tous les cas, mais avoir été marqués, comme quand on marquait les voleurs, on fait un rouge, voyez-vous. Quand ça se sait, eh bien, ils ne peuvent plus reprendre leur place. Mais au sens général, leur place. Hein.
Mais c'est pour ça que je dis... Bon, moi, il me semble que quand toutes les personnes qui sont de troubles bipolaires ou de schizophrénie en parleront eux-mêmes, on aura beaucoup avancé parce que ce sera moins stigmatisant, justement. Et le fait que ce soit stigmatisant amplifie les maladies. Enfin, hein, on est dans le psychosocial, là. Amplifie, effectivement, tous les symptômes. Allez. Alors, l'exemple du repas de famille, j'y reviens parce que, si vous voulez... la plupart des familles nous disent mais c'est fini, on ne peut plus faire le moindre repas de Noël, etc. Parce que, notamment au niveau de la schizophrénie, dans les premiers temps de la crise, puisque quelquefois il faut des mois, voire des années pour une première hospitalisation, alors qu'on voit... Or, tout ce que fait la personne qui ne va pas bien, elle fait tout pour qu'on s'occupe d'elle. Et elle entraîne, alors, il y a un psychiatre qui avait bien décrit ça, dans une espèce de spirale dans laquelle on rentre. On est pris dans une spirale, et donc, bon, faut surtout pas faire de bruit, faut faire attention, parce qu'il peut y avoir une crise. Et les familles, la peur, c'est de la crise. La crise, mais qu'est-ce qu'on va faire, ou est-ce qu'il va pas tout casser, est-ce que... Bon, il y a des familles qui ont vu tout casser dans la maison à plusieurs reprises. Donc, la peur fait qu'on ne dit rien. Or, on a tous envie d'éviter qu'il y ait des crises. On se dit, bon, ça fait du mal à tout le monde. Mais, et pourtant, pour le moment, dans notre système de fonctionnement, parce que ce sont des adultes, on n'a pas d'autre choix possible que de faire hospitaliser quand il y a un problème grave. Et c'est stigmatisant aussi pour la personne qui commet parce que, au moment où la personne va tout casser, effectivement, elle est, comme tu disais tout à l'heure, dans un acte de démence. Alors, soit, effectivement, on ne revient pas sur cet acte-là et elle n'en aura jamais conscience, soit, quelque part, petit à petit, elle en prend conscience qu'elle a commis quelque chose qui n'est pas normal. Alors, on ne casse pas tout dans une maison, a priori, sans motif, voilà. Et donc, j'ai perdu le fil dans ce livre.
Mais là, c'est plutôt le regard de la société que la question.
Oui, en fait,
oui. Mais c'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un, vous avez été absent, vous dit oh, oui, on t'a vu depuis un moment. Oui, j'étais hospitalisé à l'hôpital général. Ah bon, d'accord. Bon. J'étais hospitalisé à Sainte-Marie. Oula.
Ouais, c'est pas pareil.
Vous voyez, oui. Rien que ça. Et en plus, moi, ça me fait penser à. L'ascension de Georges Brassens, les braves gens n'aiment pas que. Voilà. Et vous avez tout compris, le reste.
Comment se comporter avec quelqu'un qui est délirant? On est tous, une fois ou l'autre, amenés à rencontrer quelqu'un qui est délirant, qui est en conférence quotidienne avec Obama. J'ose pas dire Trump, personne n'a envie d'être en conférence. Ou avec, je sais pas, ou avec Napoléon. Ou...
Ça
qu'est-ce qu'il faut faire ? Se moquer, c'est évidemment pas la solution. Rentrer dans le jeu, c'est sans doute pas la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Il faut décentrer sur son délire. Voilà, c'est
passer à autre chose.
Oui, faire quelque chose d'autre. Essayer de changer de sujet.
Aller
marcher.
D'accord.
On peut lui dire, écoute, bon, tu vois ça, ou tu en fonction de ce qu'il dit, hein, mais moi, je ne le vois pas de la même manière. Mais on ne va pas plus loin. On ne va pas lui démontrer qu'on ne comprend pas. Que c'est
surtout pas le contrarier. Hein. Surtout pas le contrarier.
En fait, c'est, enfin, moi, je l'explique. Hein, on est dans les hypothèses. Hein. Moi, je l'explique en disant que si on montre à la personne qu'on ne la comprend pas, ça l'angoisse. Ouais. Ça l'angoisse terriblement. Et à ce moment-là, la seule soupape que je vois pour le moment dans leur angoisse, c'est de l'agressivité verbale. Alors effectivement, si on rentre dans l'agressivité verbale, on peut aller, on peut aller sur les coups après. Hein.
Mais c'est très compliqué quand même de rester à l'écoute de quelqu'un qui est en délire sans porter un jugement. C'est un travail énorme sur soi à faire quand on est proche de gens comme ça. C'est très long. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que quand ils sont apaisés le lendemain ou deux, trois jours après ou une autre fois, on peut en reparler comme on parlerait avec quelqu'un qui n'a pas eu de délire, quoi. On pourrait lui dire, bah, tiens, là, tu pensais ça, tu voyais ça, moi je ne l'ai pas vu, mais voilà, et là on peut accrocher.
Voilà. Il y a un journal qui s'appelle L'Empaillé, je ne sais pas si vous connaissez.
L'Empaillé, j'ai vu.
Je recommande la lecture d'ailleurs, c'est un truc très intéressant. Ouais. Si j'en parle, enfin, c'est parce qu'il y a un entrefilet. Il y a un entrefilet dans le dernier numéro qui parle de réunion des entendeurs de voix.
Oui, tout à fait.
Ça m'a beaucoup intrigué. C'est quoi c'est...
Ah, tiens, bah, tu peux en parler de l'exemple de, que tu avais entendu dans un témoignage. Hein.
Les gens qui entendent des voix, certains se réunissent entre eux pour échanger de ce qu'ils entendent et de savoir comment on peut apprivoiser ces voix. En fait, c'est ça leur problème. La voix est dominante. C'est comment j'arrive à reprendre le contrôle.
Pardon. Mais ils ont conscience donc qu'il s'agit d'un délire.
Ben, certains arrivent à ça. Mais j'avais écouté une émission où c'était le témoignage de quelqu'un qui faisait 150 kilos ou quelque chose comme ça. Il était de la région du Nord, parce qu'à Lille, il y a des réunions d'entendeurs de voix. Et cette personne-là, à cause des traitements, il avait beaucoup grossi et tout ça, il n'était plus bien, il ne pouvait même plus marcher, enfin bref. Et il a entendu justement qu'il y avait des réunions d'entendeurs de voix. Ces voix lui étaient maléfiques, toujours, c'est toujours des voix maléfiques. Voilà. Et donc, il a été à ces réunions, et il a appris à dompter ses voix. Et il leur donnait, donc il témoignait, hein, il disait, j'ai appris à leur donner rendez-vous tous les soirs à 18h. Et donc il échangeait avec ses voix. Et après, il pensait à autre chose. Et bien ce gars-là, il a perdu 80 kilos. Et progressivement, il n'a plus pris de traitement. Voilà, c'est ce qu'il disait. Je trouve que c'est intéressant, mais ça veut dire que c'est des malades eux-mêmes qui arrivent, bien sûr, avec des psychiatres qui les accompagnent, mais quand je parlais de guérison personnelle, voilà, c'est ça la guérison personnelle. Ils ont toujours une maladie, mais ils ont réussi à prendre le dessus. Quoi. Voilà.
Et les entendeurs de voix, paraît-il, sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Hein.
Oui.
Oh, vous connaissez tous une, hein ?
Comment ?
Vous connaissez tous une ? Votre fameuse Jeanne d'Arc.
On sait pas trop des délires mystiques. Et donc, au niveau des délires, les cultures des personnes jouent énormément.
Oui,
on entend beaucoup dans les délires mystiques, il y en a qui se prennent pour Jésus-Christ, quoi. Alors, qui arrivent chez eux un beau jour, enfin, c'est déjà un jour, ils sont arrivés avec la robe longue, la barbe, enfin, les images de Jésus qu'on donne, quoi.
Ils reviendront non. aujourd'hui en le mettre dans un asile, hein. Ça c'est sûr.
C'est possible.
C'est-à-dire qu'en fait, si nous on voit ça comme un délire, mais eux, je suis certain qu'ils ne perçoivent pas comme un délire.
Non,
pas sur le moment.
Non, non. C'est-à-dire que quand ils entendent les voix, bon, ils sont dans un état, mais c'est pour eux, ils ne trouvent pas ça délirant. Nous, on dit que c'est délirant. Hein, par exemple, on va dire à quelqu'un, bah, tiens, ce que tu dis, c'est délirant. Hein, voilà, parce qu'on on dit ça ne correspond pas à la personne. Le délire, c'est ça.
Donc, j'ai oublié le titre, c'est un livre, c'est un psychiatre qui l'a écrit, qui a soigné une fois, c'est un jeune homme à ce moment-là, et la famille l'avait fait venir à la maison parce qu'il ben, ne sortait plus de sa chambre. Et puis les parents disaient, ben, voilà, nous, on ne sait pas ce qu'il a, il ne sort plus. Et par contre, ben, il est roi d'un royaume. Il a son royaume, il est devenu roi. Et il se trouve que bon, le psychiatre l'a accompagné et que ce jeune homme était musicien. Il jouait de la musique. Et le psychiatre aussi. Et en fait, donc, les consultations, il passait un moment à jouer de la musique. Et à la fin de la séance, le psychiatre lui disait, alors votre royaume, il en est où? Donc il lui parlait de son royaume un petit peu. Moyennant quoi, il a vécu comme ça, il est devenu chercheur. Hein. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont dans des situations voilà.
En fait, on sait plus qui
dans un certain monde, quoi. Voilà.
Ou dans certaines sociétés.
C'est comme ça qu'ils trouvent des choses
sorcier,
géniales.
Ou chaman, et puis utiliser mais ses visions.
On parlait tout à l'heure de l'antidépresseur. Mais regardez, il y a très longtemps, quel était le confident des gens? C'était l'Église, c'était les prêtres. Hein, il n'y avait pas de psychiatre. Les gens, ils allaient se confier. Hein, voilà. Et aujourd'hui, on n'a plus de psychiatre et on n'a plus d'Église. Donc à qui les gens vont? Parce qu'on n'a pas de psychiatre en Aveyron, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une denrée rare, hein, en Aveyron. Hein. Donc les gens, ils n'ont plus de lieu d'échange. On ne parle plus. Parce que la parole libère. Hein, voilà.
Pour peut-être raconter un exemple plus encourageant, à Berlin, on a vécu dans une grande coopérative et une partie de cette maison était louée à une association qui accompagnait des gens avec des psychoses dans leur chemin de reprendre une vie normale, de trouver du travail et compagnie. Et dans cette partie de la maison, il y avait 6 chambres pour des gens qui vivent avec leur psychose, avec un traitement, un suivi assez stabilisé pour reprendre un travail, pour vivre en commun, pour se faire à manger eux-mêmes, pour vivre tranquillement. Et franchement, ça s'est très bien passé. La cohabitation avec
ça
les
existe.
Autres 40 personnes de la population.
Ça existe.
Non.
C'est les familles gouvernantes, ce qu'on appelle. En France, ça existe. Alors, les familles gouvernantes, il y en a beaucoup sur le Tarn. C'est, en fait, c'est ça. Il y a 6-8 personnes qui vivent ensemble. Alors, il y a une aide de vie qui vient, qui aide à leur préparer les repas et compagnie. Il y a un suivi médical. Comme ça permet de veiller aussi à ce qu'ils prennent en traitement. Et donc, ça fonctionne aussi. C'est quelque chose qui se développe assez en France maintenant aussi. Mais c'est avec l'environnement que ce n'est pas toujours évident.
En France, se sont développés aussi les groupes d'entraide mutuelle. Alors, je ne sais pas si vous savez, bon, il y en a un à Rodez, il y en a un à Lyon. C'est des associations où, effectivement, où il y a des animateurs uniquement pour les personnes donc, qui sont malades psychiques, hein, qui sont plus ou moins stabilisées puisqu'ils vivent en milieu ordinaire et qui, en eux-mêmes, normalement, doivent apprendre progressivement à retrouver une certaine autonomie, à faire des choses ensemble, à faire... Voilà.
Peut-être une question. À la radio, il passe tous les matins quelqu'un qui dit « Moi, président, je ferai. Vous, présidente, vous ferez quoi ?»
Comme d'habitude.
Moi, président, déjà, on développerait un plan d'enseignement mental aussi important que pour l'autisme, que pour Alzheimer et tout ça. Déjà, et d'une. Parce qu'on parle beaucoup d'Alzheimer, on parle beaucoup de l'autisme. En 2014, on a essayé de déclarer grande cause nationale, parce que chaque année, il y a une grande cause nationale, la santé mentale. Eh bien, on n'a pas réussi. Voilà. Donc la santé mentale doit être... Mais en premier lieu.
Ce qu'il y a, c'est que la santé mentale, enfin, une personne qui a des problèmes de troubles, on la voit en négatif, c'est-à-dire que il y a des comportements tellement difficiles à comprendre qu'ensuite, c'est cette image-là qui reste en permanence, c'est-à-dire que même si des gestes sont posés positifs, on met toujours un bémol. Et comme les personnes sont très intuitives, eh bien, il s'avère que à chaque fois on tombe à côté de la plaque et c'est comme si on faisait descendre une marche d'escalier, alors que si on pouvait voir en positif, on ferait peut-être monter une marche, quoi. Et ce qui est difficile, c'est parce que voilà, ça nous fait peur, donc on négativise les réactions, alors que souvent ce sont des gens qui ont des qualités exceptionnelles, beaucoup d'artistes sont bipolaires, par exemple, mais on voit le côté souvent négatif. On commence à connaître leur œuvre quand ils sont morts. Bon, il y a beaucoup de peintres ou il y a beaucoup de sculpteurs.
Comment ? C'est une façon de sublimer leurs problèmes.
C'est une manière de sublimer leur. Exactement.
Exactement.
Et on a de la peine à le faire savoir et à leur faire comprendre qu'ils sont très importants. Parce qu'on a les images négatives. Des jours précédents.
C'est même quelqu'un qui a fait de la prison.
Ben, il le traîne.
De fait, on s'est inscrit dans notre mémoire qu'il peut retourner en prison.
Voilà. Voilà. Enfin, il le traîne à la patte.
Il y a un proche qui est énorme, même quand la mer est calme, on sait que la mer demain peut être mouvementée.
Voilà.
Et c'est vrai que nous-mêmes, on a lutté contre cette fragilité et eux, ils le sentent aussi.
Eh ben, bien sûr.
Alors, on parlait tout à l'heure de délire, comment réagir face à cette évolution. Mais nous aussi, la grande difficulté qu'on a, c'est quand on perçoit chez notre proche que la crise est imminente. Et de lui dire, je sens que tu ne vas pas bien. Si je vais bien. Vous savez, comme c'est compliqué d'essayer de le persuader, de dire, mais si tu... Non, je sens que tu ne vas pas bien. Si je vais bien. Et vous voyez que là, c'est très dur, parce qu'on sait que la crise approche, et que lui, il dit non, ce n'est pas vrai. Voilà. Et ça, c'est en sens inverse. Et c'est là qu'on est très malheureux, parce qu'on sent qu'il est en train de glisser sur une pente. On lui dit, tu glisses, tu tombes là. Ce n'est pas vrai, regarde, je suis debout. Et là, c'est très, très dur. Et pour avoir le dialogue, pour dire, allez, on va peut-être essayer, on va aller à l'UADO, peut-être, on va aller aux urgences. Non, 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 non. Et vous voyez, pour le proche, là, c'est une épreuve en ce moment très, 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 très difficile, parce qu'on sent qu'il est en perdition.
Alors, tout à l'heure, on parlait de guérison, mais je crois que, par exemple, lorsque les crises arrivent et qu'il dit, bon, allez, viens, je m'en vais, je décroche. C'est-à-dire que pour moi, il est en période de guérison. C'est-à-dire qu'il sent tellement que ça monte qu'il préfère décrocher et s'isoler plutôt que ça pète.
Oui, ben ça veut dire que là, ils ont déjà la conscience
qu'ils
ont besoin. Et ça, c'est des signes positifs, justement.
C'est des signes positifs qu'il faut.
Ça veut dire que quelque part, ils sont... Ben c'est un début de guérison personnelle.
Ils sont en train de se prendre en charge,
de se
comprendre.
Oui, oui, c'est
important. Ils sont en train de se comprendre.
On a parlé de maladie de la relation. Donc, très souvent, donc, pour revenir au repas de famille, si des personnes, ils ont tellement dans leur tête, ça se bouscule. Hein. Et donc, si effectivement, ils sont en réunion de famille, ils vont tenir tranquillement une demi-heure, une heure, jusqu'au moment où on va bien sentir que ça ne va plus. Et s'ils n'ont pas l'autorisation de sortir de table hein, avant tout le monde, ça va pas, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent s'isoler quand ils ont besoin de s'isoler. Et quand ils sont capables de dire non, ben là je m'en vais, je sors, je vais marcher, je. Mais ça, c'est là où ça nous réinterroge, hein, de se dire bon, surtout quand il y a des enfants, des plus petits, bon, lui il a 40 ans, il a le droit de sortir de table, et moi il faut que je reste encore. Enfin bon, on a tout ça à gérer à la fois.
Il y a quelque chose qui est très efficace, j'appelle ça la baladothérapie. Quand ça monte comme ça, puisque c'est notre fils hein, dont on parle, bien sûr, on dit, allez, on va faire un tour. Et là, à mesure qu'on marche, il commence la balade, tout ramassé sur lui, et au bout d'une heure, il est droit.
Il se grandit.
Oui. Et c'est très efficace.
La marche, en général, c'est une
très, très
forme
efficace.
De thérapie qui est très efficace.
Et surtout en forêt.
Parce qu'on peut aussi, si on marche à plusieurs, on n'est pas l'un en face de l'autre. Hein. Mm-hmm. On est l'un à côté de l'autre. Et donc, il y a des choses qui peuvent comme ça, se dire, sans l'air de rien.
Ou rien dire.
Je crois que ce que tu viens de dire est très important. C'est-à-dire que souvent, on est en situation de face à face.
Ouais.
Et ce sont des situations impossibles à vivre pour eux, et souvent pour nous. Mm-hmm. Et alors que quand on est en situation de côte à côte, on peut faire passer des tas de choses. Mmh. Et je crois que la notion de face à face et côte à côte est sûrement un élément de réflexion à avoir quand on se sent concerné par ce genre de situation.
Et alors ça vaudrait pour des soignants aussi ?
Peut-être même quelquefois pour les soignants, en tout cas si la famille est soignante. Le face-à-face, c'est souvent, pour moi, ce sont des tremplins successifs d'escalade. Mmh. Alors que le côte-à-côte, c'est un partage, c'est une forme d'accompagnement, mais réciproque. Mmh. On ne sait plus trop dans une marche qui accompagne l'autre, me semble-t-il. Oui. Alors que lorsqu'on est de chaque côté d'une table, il y a une confrontation qui a tendance à monter, parce qu'on est en opposition.
C'est un peu comme le fait d'intervenir qui est sur une estrade.
Exactement, le maître d'école qui était sur l'estrade, et nous, parmi nous, c'est tout à fait différent.
La position du soignant, c'est quand même pas la même posture. Hein. C'est, alors que lorsque c'est l'entourage proche, il y a tous les côtés affectifs qui jouent. Mais bon, alors que la posture du soignant, c'est peut-être plus de garder aussi la bonne distance en tant que soignant. Et en tant que. Voilà, il y a la place du soignant, il y a la place du malade, et on ne peut pas les considérer de la même manière.
J'aimerais revenir très en arrière dans l'échange, mais au début de l'échange, vous expliquiez que la personne qui aborde une crise ou enfin n'arrive pas du tout à être en contact avec ses sentiments et encore moins à les exprimer. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'elle ressent, elle, de ce qu'elle pense vivre? Est-ce que ça peut se rapprocher d'une douleur qu'on pourrait identifier une douleur physique? Est-ce que vous avez un petit peu idée de la texture du mauvais vécu qu'elle a et qu'est-ce que ça induit chez elle de ne pas pouvoir l'exprimer, quoi.
Souvent, c'est le regard. Hein, quand on voit que le regard est, je dirais, presque un peu fixe et dur, c'est qu'ils ne sont vraiment pas bien.
Mais pour vous, c'est de la panique, de la douleur de vous arriver.
Il y a tout. Hein, moi, je pense qu'à certains moments, ils ont conscience qu'ils peuvent être dangereux. Ils le disent, hein, mais est-ce que je peux être dangereux? Il y a des moments où ils peuvent dire, mais est-ce que je peux faire peur? Est-ce que je t'ai fait peur quelquefois? Donc ils ont des questionnements, hein. Ça veut dire que c'est très dur, ce qu'ils vivent est très dur. Et ça, au niveau des familles, on en parle parce qu'on se dit, bon, les familles souffrent, sont en souffrance, mais on se dit, attendez, il faut quand même qu'on pense à la souffrance de nos proches, c'est autre chose. Hein. La nôtre, elle est relative. Il y a une grande souffrance, effectivement, qui fait qu'ils ont des conduites qui sont pas acceptables, quoi, en fait.
Alors,
bon,
vas-y. À vous entendre, je me pose une question. On parle beaucoup des malades, à juste titre, mais vous parlez des familles, des accompagnants, etc. Est-ce qu'on peut parler un peu d'eux? Et j'ai une question plus précise, c'est, bien souvent, j'imagine, je ne sais pas, je ne dis pas ça, c'est les parents avec un des enfants qui peut être devenu adulte, etc., et que ressentent ces parents qui se voyant vieillir, voyant que leurs enfants sont quand même en difficulté, qu'est-ce qui va se passer quand on ne sera plus là, enfin, je ne sais pas.
Alors, il y a beaucoup de parents qui sont préoccupés, on parle de l'après-soi, hein, qu'est-ce qui va se passer. Pareil, bon, à travers des exemples, hein, c'est toujours des exemples qu'on a eu à connaître. Il s'avère qu'à certains moments, au décès des parents, il y a des personnes qui vont mieux. C'est-à-dire que la tentation des parents est inconsciente, hein, c'est de surprotéger. Et il s'avère que dans certains cas, il y a une telle surprotection il y a encore un certain nombre d'années, les personnes restaient dans leur famille, chez leurs parents. Donc, qu'ils les considéraient comme des enfants, alors que ce sont des adultes, hein. Même la femme, on parle encore de nos enfants, ils ont 50 ans, hein, donc bon, alors on dit, attends, il a un prénom, il a... Voilà. Alors, à la fois, tout dépend du regard qu'on a. Hein. Est-ce que, bon, on a un regard plutôt d'espérance, on se dit, bon, ils trouveront peut-être des ressources en eux qui vont faire qu'il y aura autre chose. Et puis qu'on est aussi quand même dans un pays où on a la chance où ils ont des ressources, quel que soit leur âge. Qu'ils soient reconnus ou non d'ailleurs handicapés, mais bon, on est dans un pays où il y a toujours un minimum de ressources. Hein. Et s'il y a reconnaissance du handicap, bon, c'est quand même... Voilà. Ouais, mais et ça... puis après, la position n'est pas la même dans ce que ressentent les proches si on est conjoint. Si on est parent, si on est frère, sœur, hein, les souffrances ne sont pas les mêmes. Bon, je pense qu'on reçoit de plus en plus de conjoints maintenant, la femme, et pour un conjoint, c'est pas évident hein, d'avoir un conjoint où on n'est pas dans une position symétrique, tout à fait. De fait, bon, le conjoint devient protecteur de son conjoint, quoi. Hein. C'est pas facile. Hein.
C'est pas
des relations. Alors que les parents sont dans une situation de responsabilité, hein. C'est pas de culpabilité, hein, ni de responsabilité en tant que cause de la maladie, mais on a une responsabilité par rapport aux fils, aux filles qu'on a.
C'est-à-dire qu'en fait, le proche est toujours étant familial, qu'on veuille ou non. Donc en fait, il y a un regard de surveillance, même si le mot n'est pas juste, mais on veille quand même. Et c'est vrai que le lendemain, quand les aidants familiaux disparaissent, même s'il y a des structures, c'est pas évident que cela fonctionne comme un aidant familial. Hein? Parce qu'il y a des proches qui n'ont pas de famille, ben ceux-là, c'est les plus en danger. Hein? Quand ils sont en milieu hospitalisé, bon, il y a l'hospitalier qui est là, mais quand ils sortent de l'hôpital, souvent ils sont seuls. Ils n'ont pas envie de fréquenter ni des GEM, ni de ceci. En fait, l'aidant familial aujourd'hui, il a ce rôle où il peut veiller à ce que l'AS aille le mieux possible. Mais demain, quand l'aidant familial disparaît, c'est clair que la personne est encore deux fois plus vulnérable. Quoi. Parce que même si les structures existent, il n'y a pas un inventaire précis de là où il faut prendre la suite. Quoi. Et puis on a un devoir moral aussi par rapport aux proches. Voilà. Tandis que les structures n'ont pas de devoir. Ils ont un devoir de solidarité, mais pas un devoir d'obligation d'exercer cette solidarité, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'abord et d'une. Il y a des malades psychiques qui n'ont pas de famille et qui, voilà, et qui sont repérés que le jour où il y a un problème. Mais quand il n'y a pas de problème, tout le monde les ignore. Quoi. Voilà.
Okay. C'est une préoccupation. Hein. Alors, l'UNAFAM a édité, on n'a pas apporté, l'UNAFAM édite certains petits fascicules sur la pressoie, par exemple, il y en a un qui a été édité. Il y a un fascicule sur les frères-sœurs, il y a un fascicule sur les témoignages de famille. Enfin, la femme édite un certain nombre de documents. Je crois tenez, vous avez... Ça, c'est la revue l'UNAFAM. Les personnes qui sont adhérentes à l'UNAFAM reçoivent cette revue qui s'appelle Un autre regard. Je vois préparer l'après-soi. Si ça vous intéresse, vous pouvez le prendre.
Elles sont là. C'est surtout sur le plan matériel. Ouais.
C'est plus sur... Oui,
c'est surtout sur le plan matériel. Ouais, ouais. Parce qu'il y a des... Bon, c'est vrai qu'il existe des éléments de prévention qui peuvent permettre, une fois que les broches ne sont plus là, que malgré tout, ils puissent continuer à vivre avec des ressources. Quoi. Ceci étant, même quand quelquefois il peut y avoir des frères et sœurs et puis, ou des malades, et puis un est malade, quand les parents ne sont plus là, imaginez un peu le problème que cela posait par rapport à l'héritage, par rapport à ceci, par rapport à cela. Hein. C'est pas...
Il vaut mieux préparer avant tout ça.
Oui. Ah oui, c'est pour ça. Il vaut mieux... tout à fait.
On n'a pas évoqué la nécessité pour un certain nombre d'être sous curatelle. Ça aussi, c'est très douloureux, parce que c'est priver quelqu'un de sa liberté... Enfin, au niveau de financier essentiellement, il n'y a pas de tutelle et privation de droit chez ces personnes-là, de droit, il n'y a jamais de tutelle, ce qu'on appelle la tutelle, c'est des curatelles simples ou renforcées, et qui sont pourtant une nécessité chez un certain nombre de personnes, qui sont incapables de gérer leur budget, ou qui peuvent le gérer, enfin je pense à certaines personnes qui souffrent de troubles bipolaires, qui sont incapables de le gérer en phase dépressive, mais qui sont incapables de le gérer en phase maniaque. Une des caractéristiques de la phase maniaque, c'est la toute-puissance. tout est possible. Ça, c'est vraiment important à retenir. Tout est possible en termes financiers. Hein. On peut s'acheter. Il y avait une famille qui nous disait que leur fille avait réussi à s'acheter une maison. Alors, elle n'avait pas un sou. Hein. Elle avait trouvé un financement pour s'acheter une maison alors qu'elle n'avait rien. Mais elle avait quand même trouvé le financeur, etc. Donc la mise sous tutelle pouvait casser la décision qui avait été prise. Après, bon, il y a la toute-puissance, elle est de tout type. Hein. Et face à ça, il n'y a pas d'autre possibilité qu'une mise sous curatelle, quoi.
Et la curatelle, dans ce cas-là, est exercée par un membre de la famille ou il est souhaitable que ce soit quelqu'un un peu extérieur quand même?
A priori, on dit qu'il vaut mieux pas mélanger, oui, voilà, qu'il vaut mieux faire appel à l'extérieur. Alors, c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas de patrimoine et de ressources importantes, ça pose pas de problème. Et souvent, les familles jouent le rôle de curateur parce qu'il y a, oui, il y a des ressources, il y a du patrimoine, etc. Mais effectivement, ça fausse complètement le lien, quoi. Mmh. S'il y a un lien de confier la curatelle à un frère ou une sœur au décès des parents, je trouve que c'est. On se dit bon.
C'est un juge aux affaires familiales qui décide.
Non.
Qui exerce cette curatelle.
Non, aujourd'hui, au contraire, on suggère aux familles d'être curateur.
D'accord.
Oui. Alors qu'en fait, c'est.
C'est pas.
Non. Bon, mais il y a toujours des cas particuliers. Hein. On peut avoir aussi dans un proche qui soit un peu plus en distance, qui accepte d'être curateur.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou si vous voulez, on peut arrêter la discussion.
Est-ce que vous sentez une évolution positive sur 10 ans, par exemple? Est-ce que les choses vont dans le bon sens, quelque part?
Ou
la crise s'exerce aussi dans ce domaine-là et fait qu'on est en régression?
Non, moi, je trouve que quand on regarde l'aujourd'hui, on se dit, oh là là, il y a beaucoup de manque. Quand on regarde derrière soi, il y a une évolution très positive. Alors, qui, malheureusement, touche pas tout le monde, hein, mais il y a des équipes de soignants qui sont vraiment bien. On voit bien. Y compris, alors au niveau des traitements, quand les psychiatres vont pouvoir dire aux familles qu'on tâtonne, on aura vraiment avancé. Parce que ils n'ont pas de vérité, il n'y a pas de vérité du tout, c'est trop compliqué. Donc ils tâtonnent pour trouver des traitements, le traitement qui va convenir à telle personne. Après, en Aveyron, on a passé de psychiatre, mais il y a aussi encore un peu trop sans doute l'idée qu'il faut plus de lits à l'hôpital. Moi, j'en suis pas sûre. Si effectivement on intervient beaucoup en amont de l'hospitalisation, je suis sûre que les personnes seraient moins malades. Si dès qu'il y a des symptômes qui donnent à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, quand il y a la famille ou des proches qui voient que ça ne va pas bien, on faisait intervenir à domicile, parce qu'à ce moment-là, la personne pourrait rentrer en soins sans que ce soit connu qu'elle ait été hospitalisée.
C'est pas le cas aujourd'hui.
C'est vraiment une préoccupation. Et après, dans les structures d'accompagnement, il y a du positif. Hein. Si on prend, je crois qu'on peut dire à Rodez un peu.
Pour relativiser quand même. Il y a une prise de conscience, mais les moyens ne sont pas là.
Mais attends, il y a 10 ans, il n'y avait pas les moyens.
Oui, mais moi je regarde aujourd'hui.
C'est ça, si on regarde aujourd'hui, effectivement, on n'avance pas assez vite. Si on regarde à 20 ans, n'en parlons pas, il y a une évolution.
On attend depuis 5 ans un SAMSA psychique. Donc pour moi, ce n'est pas positif ça. Hein. Je suis désolé.
Là, c'est plus.
Ah ben non.
La difficulté aussi, c'est que les gens travaillent ensemble, les différents partenaires concernés travaillent ensemble, et qu'il y ait un référent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de référent. Il n'y a pas un coordonnateur. Il n'y a pas. Ils sont à l'hôpital, donc c'est comme ça. Ils vont au CMP à la sortie de l'hôpital. C'est plus la même assistante sociale. C'est plus le même psychiatre. C'est plus. Alors, c'est complètement aberrant. Ça c'est aberrant. Le fonctionnement est aberrant.
Au niveau du handicap en général, la maison départementale du handicap, par exemple, il y a cette coordination des différents services.
Non.
Alors qu'en santé mentale, il n'y a pas ça.
Eh ben, au niveau de la MDPH, elle n'a pas le rôle de coordinateur. Hein, elle étudie les dossiers des gens, elle les reçoit éventuellement, mais on n'a pas. Enfin, au niveau d'une famille ici, en cours d'hospitalisation, ils ont même pas. Il devrait y avoir un référent au moins. Hein, enfin, une personne, un infirmier du service qui suit davantage, mais non, ça n'existe. Non.
Alors qu'au niveau du handicap moteur, par exemple, ça existe. La maison départementale du handicap, ça existe.
Oui, mais...
centralisation des différents intervenants pour l'orientation scolaire, etc.
Oui, mais ça existe aussi pour les personnes.
Mais au niveau du malade.
Si ça existe, aussi, si c'est la même, c'est l'équivalent, c'est pareil. Hein. Sauf qu'il y a quand même une culture, dans ce que je ressens, je siège à la MDPH. Une culture des professionnels qui ont encore une vision, enfin, je trouve un peu trop souvent négative des familles.
Ouais.
Bon, la précarité, alors pour les plus jeunes, parce que les jeunes sont touchés de plus en plus jeunes maintenant, hein, c'est vraiment, oui. Et donc, ben, on va parler de différents troubles du comportement. Donc il n'y a pas de diagnostic, mais bon, quand on a l'habitude, on se dit, bah, ce jeune-là, qui a 15 ans, 16 ans, mais il aurait besoin de soins. Hein. Quand un jeune n'a plus de statut, il va plus à l'école, il est plus scolarisé, c'est bien un problème quelque part. Hein. Or, jusqu'à présent, on ne réagit pas, hein. Il n'y a pas de réaction.
En fait, il y a quand même, je veux dire, en amont, quand même, il y a tout un problème sociétal. D'ailleurs, dans toutes les villes, maintenant, se mettent souvent des conseils locaux de santé mentale pour justement faire intervenir toutes les forces de l'éducation nationale, de la police, de la vie citoyenne et tout ça, pour justement, je dirais, apprendre et repérer tout ce qui peut être générateur des facteurs de dégradation de la santé mentale. Parce qu'en fait, comme on a dit tout à l'heure, s'il y a des faits déclencheurs, au fait que chez les jeunes, par exemple, le cannabis est un facteur déclenchant de maladies psychiques. Le cannabis, c'est tout le monde le sait. Hein, voilà. Donc ça veut dire que l'usage du cannabis va générer forcément des personnes schizophrènes. On le sait. Voilà.
Donc, voyez, donc l'alcool quand même.
Hein, l'alcool, oui. Mais je veux dire que, alors comment on fait ?
Disons que ça n'est pas systématique.
Il faut heureusement.
Non, d'accord, c'est pas systématique, mais c'est un facteur.
C'est un facteur.
Voilà, c'est un facteur. Donc c'est pour ça que chez certains, ça ne va rien faire du tout, voilà, mais chez d'autres, voilà, qui sont déjà plus fragilisés, ça va. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis en plus, les personnes recherchent dans le cannabis aussi une façon d'alléger leur souffrance aussi, à la place du médicament. Voilà. Donc en fait, je crois qu'il y a les deux aspects. Il y a l'aspect effectivement maladie, hein, qui est à traiter sous angle tout possible, mais il y a aussi la société. Et qui doit être moins génératrice de faits déclencheurs, voilà, que l'on veuille ou non. Aujourd'hui, le chômage, eh ben, est un facteur qui peut déclencher des problèmes psychiques chez une personne. Une personne qui désespère trouver du travail, ainsi de suite, à un moment donné, peut craquer et sombrer, voilà. Comme quelqu'un qui travaille, mais qui est dans une hyper compétition dans une entreprise, un jour ou l'autre, ça peut déclencher une maladie psychique. Dans le cas de la semaine d'information de santé mentale, notre partenaire, c'est la MGEN. Mais dans le monde de l'éducation nationale, je veux dire, c'est impressionnant comment la santé mentale, je dirais, est attaquée de toutes parts. Quoi. Hein, voilà. Ils ont même des lieux de parole, hein, des lieux de parole où les enseignants viennent s'exprimer, tout ça. Donc, vous voyez, donc voilà, donc en fait, on est aussi dans un cursus qui fait que... Après, ce qui est intéressant au niveau maladie psychique, quand même, c'est que de plus en plus, on essaie de trouver des solutions alternatives à l'hospitalisation. Ça, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Voilà aussi parce que, par exemple, l'Italie, il n'y a aucun asile psychiatrique, aucun lieu d'hôpital psychiatrique. Tout est dans des petites unités. Voilà. Donc,
ce qu'il y a aussi, pardon.
Oui, vas-y.
Par rapport à ce que disait Yves, à l'hôpital, maintenant,
Il y a les soins, bien sûr, médicaux, mais en même temps, les soignants se sont formés à ce qu'ils appellent l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils apprennent, bien sûr, aux malades qui sont volontaires, qui sont prêts à le faire, à gérer leur propre maladie, leurs soins, leurs symptômes, et voilà. Et donc, ils font ça en groupe de parole entre eux. Quand on parlait des délires interprétatifs, y en a un qui dit, il m'est arrivé ça, il raconte son histoire. J'ai pensé que quelqu'un était rentré chez moi, m'avait piqué un truc alors qu'il l'avait tout simplement perdu. Et donc le psychiatre dit, ou le soignant dit aux autres, mais comment vous, ça vous arrive des situations comme ça? Oui, moi ça m'arrive, mais moi je pense pas que quelqu'un est rentré chez moi, je pense que je l'ai perdu, je vais le retrouver. Et donc ça leur met un peu un coin dans leur délire interprétatif. Voilà, donc ils les font travailler autour de ça. Et ils font aussi ce qu'ils appellent la rémédiation cognitive, c'est pour leur donner des techniques pour retrouver la capacité à entrer en communication avec les autres. Par exemple, dire bonjour, ou je sais pas, des trucs tout bêtes, quoi. Ils perdent les codes de la société. Et donc, ils travaillent là-dessus. Donc, je trouve, par rapport à ce que tu disais, Yves, ça me paraît positif, par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ans, quoi. Voilà. Alors, bien sûr, il y a toujours plein de choses à faire, mais il y a quand même des. Si on regarde positivement les choses, je pense que oui.
La grande leçon, c'est peut-être ce que disait monsieur, c'est que la société ne va pas dans le sens de rendre les gens de mieux en mieux dans leur peau. Voilà.
C'est sûr.
On est dans une société tellement stressante.
Moi, j'appartiens à une génération, on était heureux de travailler. Moi, je me suis éclaté dans mon boulot. Mais dans tous les gens, quasiment à 95%, sinon plus, les gens sont malheureux dans leur travail. Ils ont des problèmes avec leur chef, avec leur collègue, avec leur stature. Mm. Je ne vois pas des gens heureux au travail. Moi, je ne peux pas avoir des gens équilibrés. Mais ça,
Et par contre, on parlait de la maison pour le handicap, là. À certains moments, on accorde des aides à des personnes, enfin, où on retire des aides à des personnes parce qu'ils auraient la capacité de travailler une heure par jour. Vous voyez, dans le contexte dans lequel on est, une heure par jour, des personnes qui, effectivement, vont tenir deux heures, peut-être, et encore, il ne faut pas y avoir trop de monde autour. Et donc, parce que ils ont l'allocation adulte handicapé, et ils peuvent avoir un complément de ressources s'ils sont en incapacité totale de travailler. Enfin, moins de 5% de capacité de travail. Hein. Moins de 5%. Alors, j'ai posé la question, on m'a dit, il peut travailler une heure par jour. Effectivement, ils peuvent tous travailler une heure par jour, mais où est-ce qu'ils vont travailler une heure par jour? Comment Fillon va nous arranger. Sûrement, ouais. Par contre, Fillon a fait ce qui manque un peu partout, parce qu'il en faudrait dans tous les départements, il faudrait des structures soins-études. Il a fait un lycée soins-études dans la Sarthe, Fillon. En structure lycéenne ou étudiante. En France, on a une dizaine de structures, alors qu'il en faudrait beaucoup plus, parce qu'une personne, dont je disais tout à l'heure, a besoin de reconnaissance. Quelqu'un qui ne fait plus rien. Or, les jeunes qui décompensent sont encore en capacité, ont l'intelligence pour continuer des études, mais s'ils ne sont pas accompagnés, notamment en internat le soir, face à leur anxiété, etc., ils vont pas réussir. Donc, il y a des scolarisations, et puis après, il y a le trou, quoi.
Est-ce que la chimie et perturbateurs endocriniens ont une influence?
Pour le moment, on n'en parle pas encore, mais moi, je suis sûre que les neurotoxiques, on en prend sur la figure. Hein. Donc, on sait que dans les psychoses, c'est quand même ça affecte les neurotransmetteurs. Donc, les neurotoxiques affectent les neurotransmetteurs. Donc, on ne sait pas trop. Hein.
Puis bientôt on parlera des ondes électromagnétiques aussi.
C'est un peu un corollaire à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres réponses que médicamenteuses à la maladie psychique? Ou est-ce que c'est systématiquement une réponse médicamenteuse? J'ai entendu quelques bribes par là qui me faisaient laisser penser qu'il y avait d'autres. Est-ce qu'il y a une tentative pour se libérer un peu
de... En période de crise, c'est sûr qu'il y a. Les médicaments sont obligatoires, en période de crise, hein. C'est impossible de faire autre chose.
Après, c'est au Québec où il y a vraiment un travail des personnes entre elles qui apprennent à se passer de médicaments, mais qui se font confiance et qui disent, bon, si on s'aperçoit que tu vas... Bon, la diminution du traitement est très très faible, hein, très, très, très douce. Si on voit un moment que tu ne vas pas bien, tu nous fais confiance, c'est-à-dire stop, tu arrêtes de baisser le traitement. Le nombre de personnes qui sont capables de se passer d'un traitement, bah, je vous ai donné cet exemple de cette jeune femme qui fait une heure de relaxation par jour.
Oui.
Donc c'est, je crois qu'il y a toute une capacité intellectuelle à avoir conscience de son problème. Et effectivement, ceux qui ont conscience de leurs problèmes peuvent.
Et ça s'apprend aussi.
Ça s'apprend, oui, oui.
La relaxation,
là, on a un témoignage.
Il y a la méditation aussi.
La méditation peut être aidante.
Par la méditation.
Peut être aidante. Mais bon, après, l'histoire de. Pourra-t-on se passer de chimie complètement ou pas, on ne sait pas. Hein, autant on peut parler de guérison personnelle, au sens de guérison personnelle, avoir conscience de sa maladie et dire, bah, tiens, moi, c'est ce qui me convient, etc. Et jusqu'où, avec un suivi médical, je peux progressivement diminuer telle ou telle molécule, oui, mais jusqu'où? Nous, on en a fait l'expérience, hein, c'est notre fils aussi qui est malade. Le psychiatre a accepté de diminuer. Puis un jour, on a vu stop. Hein. On a vu une différence telle que bon, c'était. Il a dû faire marche arrière. Bon, donc, mais c'est important que les équipes de soignants et de tous ceux qui accompagnent puissent, comment dire, dire ce qu'ils observent. Hein. Et puis, à ce moment-là, faire confiance en disant, ben, on peut peut-être essayer. On peut peut-être aussi essayer un autre traitement ou on peut essayer autre chose. Mais il faut que la personne soit dans l'acceptation elle-même de sa maladie. Et ça, je crois que ceux qui sont dans l'acceptation de leur maladie peuvent évoluer favorablement et peut-être aller jusqu'à vivre sans traitement.
Voilà. J'ai peut-être mauvais esprit, mais je vois toujours derrière ça le pactole pour les laboratoires derrière lesquels se trouvent des actionnaires chez qui la maladie mentale, ils en ont rien à foutre. Ce qui compte, c'est...
Bah bien, oui, mais ça, c'est valable.
Voilà.
Et c'est valable pour toutes les maladies, ça. Oui,
oui voilà, bien
tout
sûr.
Fait, mais tout à fait.
Celle-là, hein.
Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr.
Et s'il vous plaît, l'ordre de grandeur, le pourcentage des gens qui sont conscients de leur maladie, qui se prennent en charge. Parce que là, vous parlez de cas, c'est vrai que ça garde... Ils gagnent beaucoup, cela, mais...
C'est vraiment
majoritaire, minoritaire.
On n'a pas de réponse par rapport à ça. Hein. Moi, j'ai des exemples que j'ai entendus de personnes que je connais ou que je ne connais pas.
Mais souvent, quand même, avec l'âge, 10, 15, 20 ans de maladie, ça s'apaise et ils retrouvent un peu de stabilité quand même. Voilà. Enfin,
c'est un constat qu'on fait, en général.
C'est entrecoupé.
Mais je crois que c'est un peu
la reconnaissance.
Mais je crois
qu'il faut naissance. C'est déjà au préalable, quand même.
Ah oui, quand ils ont, ce qu'on disait là en aparté, c'est quand ils ont pris conscience qu'ils sont malades
et qu'il faut qu'ils soignent,
etc. Ben, ça y est, c'est gagné, quoi.
Ce qui me semble, c'est qu'ils sont d'une ultra-sensibilité à des choses qui nous, ça passe inaperçu. Et ils sont intuitifs, c'est-à-dire qu'ils vont pressentir des choses qu'effectivement, on a très profond de soi, mais qu'on n'avait pas énoncé. Ou bien, ils sont extrêmement sensibles. Et un divorce, une maladie de quelqu'un qu'ils aiment, on ne sait pas trop ce qui peut déclencher. Mais on s'aperçoit que de temps en temps, il y a une marche qui monte de sensibilité parce qu'il y a quelque chose qui les a dérangés. Enfin, je donne un exemple, mais souvent, il nous dit la société a fait la perte, on va se casser la gueule. Sur des faits qu'il a entendus à la radio. On ne sait pas lesquels. On ne sait pas lesquels. Mais... vous verrez bien. D'un air de dire, on va se jeter dans l'abîme. Mais qu'est-ce qui fait qu'il le rend sensible comme ça? On ne le sait pas.
Ils ont à la fois une espèce de lucidité.
Ils sont très lucides sur le... Alors la société qui ne va pas bien en ce moment, je pense que c'est des facteurs déclencheurs.
Mais pour répondre aussi... Enfin, tu peux répondre à votre question, c'est... Moi, je crois qu'ils ont des deuils à faire. Oui. Et donc, une fois qu'ils ont fait ces deuils, mais inconscients...
Oui, c'est inconscient. Hein,
dire, ben oui, finalement, je ne travaillerai plus parce que je ne peux pas travailler. Bon, finalement, bon, j'arriverai jamais à avoir une compagne... Bon, finalement, enfin, mais ils ne le disent pas, ça. Et arrive un moment où ils font avec.
Ils acceptent.
Ben, une forme d'acceptation.
Avec des moments de révolte.
Oui, mais des fois, ils avancent aussi le fait de la maladie comme argument à ne pas faire.
Oui.
Hein, on va dire, bah, tiens, tu pourrais essayer de trouver un travail. Ah, ben non, je ne peux pas, je suis malade. Ils savent très bien utiliser des fois la maladie pour opposer une refus à des propositions. Mais non, je ne peux pas, je suis malade. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très... Tantôt, ils sont conscients que la maladie, ben, finalement, c'est un argument qui leur sert. Tantôt, voilà. Ah oui, c'est un jeu très compliqué. Hein, c'est...
Il y a aussi le cas où des gens tombent malades, par exemple, à la trentaine, 25-30 ans, et ils consultent d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, ils se prennent d'emblée en charge, parce que cette maladie est arrivée direct, d'un coup. Et là, c'est presque gagné, quoi.
C'est rarement des personnes qui souffrent de schizophrénie ou...
Je connais un cas.
Oui, un cas, oui.
C'est arrivé pratiquement du jour au lendemain. Oui, oui. Il a dit, qu'est-ce qui m'arrive, il faut que je consulte. Ah, oui, oui. Il a consulté, il est rentré à Sainte-Marie, et tout s'est mis dans l'ordre. Le traitement s'est installé, la famille l'a accepté. Il a vécu avec et maintenant il est tout à fait, il est sous traitement, mais il vit tout à fait normalement.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déni de la maladie, là.
C'est pour ça qu'on parle de degré aussi.
Et là, c'est super.
C'est un difficile hein, comme sujet parce qu'on voit bien qu'on est vraiment dans la complexité, hein, une grande complexité, ça dépend des individus, de la société, de... des représentations, et chaque personne, c'est un cas.
Ou chaque cas est une personne.
Oui.
Chaque personne est un cas. Nous sommes uniques dans tous les domaines.
On dit merci.
Merci beaucoup.